Good Morning Business, l'expert.
Notre expert ce matin, c'est un chef d'entreprise, un vrai, Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, l'ingénierie de l'air comprimé. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé avec Jean-Marc Delay et Nicolas Dose de cette double inflation, c'est-à-dire l'inflation des matières premières et l'inflation de l'euro faible qui renchérit nos importations plus 15% en un an. Et pour vous, industriels, c'est la double peine.
Absolument, c'est la double peine. C'est-à-dire que si vous voulez, comme on était face à des pénuries d'approvisionnement au niveau des matières premières qui ont créé donc l'inflation classique de l'offre et la demande, ça suffisait pas.
Ouais.
Comme je pense que peut-être le bon Dieu avait peur qu'on s'ennuie. Donc du coup, on a maintenant une parité
1,06 là. Ouais.
Alors, c'est-à-dire qu'en clair, on est quasiment à 1 dollar pour 1 euro. Et donc, comme une grande partie des matières premières sont cotées à 1 dollar, ça veut dire qu'on a une nouvelle couche inflationniste. Moi, je vois pas de perspective d'augmentation de l'offre des matières premières à moyen terme. Hein. Mmh. Quand je dis à moyen terme, c'est dans les deux ans à venir. Donc, ça présage de discussions commerciales qui étaient déjà difficiles, qui vont être encore plus.
Avec vos clients, notamment.
Ah, bien sûr. Ouais. Parce que maintenant, tout le monde est toujours pareil. Tout le monde est toujours d'accord, tout le monde comprend tout, mais toujours, si vous voulez, pour que ça soit le voisin qui prenne les hausses de prix. Et donc, pour les entreprises comme les nôtres, qui sont sur des produits, qui sont des biens d'équipement, qui font souvent l'objet de contrats, eh bien, on a des positions extrêmement dures de la part de direction achat qui refusent de renégocier les contrats et de prendre une partie des hausses.
Est-ce que vous, ça vous met concrètement en danger sur certains de vos produits ?
Alors, nous, on fait partie des industriels un petit peu parano, où on a des niveaux de stock qui sont hors normes, et des niveaux de trésorerie hors normes, et des niveaux de fonds propres hors normes.
Ouais.
Moi, j'en suis à ma 6e crise, et j'ai appris, si vous voulez, à force d'expérience, que c'est toujours ces éléments-là qui vous font traverser les crises. Donc, pour l'instant, nous, on résiste. Par contre, le problème, c'est qu'on a des clients qui ont des trésoreries qui sont en train de fondre comme beurre au soleil, donc avec des risques crédits qui augmentent. Et donc, nous, aujourd'hui, on est face à un marché qui, si vous voulez, présente des risques commerciaux beaucoup plus importants. Et c'est très, très rapide. Je rappelle que beaucoup d'entreprises sont en train de rembourser les PGE. Hein.
Ouais. C'est pour ça, Nicolas, qu'on ne l'attendait pas, celle-là, après la hausse du prix du pétrole, les pénuries, les reconfinements. Maintenant, c'est l'euro faible.
Alors, l'euro faible, en théorie, on a souvent tendance à dire que c'est une bonne nouvelle pour la compétitivité, pour l'offre, pour les exportateurs. Mais effectivement, si vous fabriquez des voitures en France et que vous avez un euro qui est faible, vous vendez plus facilement vos voitures à l'extérieur. Seulement quand vous pouvez plus les fabriquer, les voitures, que l'euro soit fort ou faible, malheureusement, ça n'a plus aucun effet sur la contrainte de l'offre. Et là, aujourd'hui, c'est de la contrainte de l'offre. Donc les effets vertueux d'un euro faible, on les a pas. Et alors les effets pervers, on les a. Les effets pervers, c'est le pétrole plus cher, les importations plus chères, les coûts de production plus chers, ce qui veut dire en plus que c'est paradoxal. Normalement, l'Europe, la zone euro, l'Europe qui est une zone de balance des paiements courants excédentaire, devrait en théorie avoir une monnaie forte. Et là, on se rend compte que, en plus de tout ça, il y a une prime de risque européenne qui s'installe, et le marché ne considère pas l'Europe comme ayant la même prime de risque que d'autres pays qui sont moins exposés, notamment les États-Unis, à ces problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures et ces problèmes de proximité avec le front ukrainien, par exemple. Ouais. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on disait il risque d'y avoir des pénuries. Ça y est, on est dans les pénuries. Vous avez vu hier que Bercy autorise les industriels à remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de colza, de l'huile d'arachide ou de l'huile de palme et leur donne un délai pour pouvoir adapter, actualiser leurs emballages afin que cette substitution apparaisse. Pénurie d'huile de tournesol et je découvre que 50% de la production d'huile de tournesol venait d'Ukraine. Objectivement, je ne le savais pas. Et on voit que le prix du verre, le prix de l'acier, le prix du carton s'envolent littéralement. Et qu'aujourd'hui, il y a des pénuries de certaines productions, pas parce que le contenu n'existe plus, mais le contenant n'est plus possible à réaliser, notamment des packs en carton pour l'alimentaire. On a eu cette alerte de la Banque mondiale qui date d'hier et qui compare aujourd'hui le choc énergétique que nous vivons et le choc sur les matières premières à quelque chose de parfaitement similaire à ce qui s'est passé dans les années 70. Donc oui, c'est là pour durer, oui, c'est historique et oui, ça va faire mal.
Bon, mais écoutez, c'est pas très réjouissant tout ça. Faudrait être agile.
Exactement. Et justement, il faudrait être doublement agile parce que ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que la pénurie, elle est quasiment arrivée, je dirais, en 24 heures.
C'est ça.
J'exagère. Ouais. D'habitude, les phénomènes pénuriques mettent du temps. Là, c'est arrivé tout de suite.